Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Florian Dorimini. Son regard cette semaine. Et bien sûr, le mot qui donne son titre à l'émission. Au-delà de l'harmonie sonore, je n'ai pas choisi ce terme par hasard. L'embellie est certes une amélioration, mais une amélioration temporaire. Ceux qui écoutaient Remède à la mélancolie connaissent mon pessimisme, mais c'est un pessimisme que j'espère constructif et non pas nihiliste. Des lueurs éphémères, ce sont déjà de petits miracles dans la sombreur qui nous entoure. Libre à nous de prolonger leur durée et de provoquer leur apparition. Hier soir, j'ai communiqué avec l'embellie en personne, qui sous sa forme physique, je vous le confie, ressemble curieusement à une endive, et elle m'a confié son désir d'être régulièrement conviée parmi nous. N'hésitez donc pas à l'accueillir, je crois qu'elle jouit, comme les larmes, d'une capacité de surgissement illimitée. Notre invitée est une actrice dont l'allure espiègle et la sémillance engendrent une sympathie immédiate. On peut la côtoyer en ce moment sur Netflix, aux côtés d'Omar Sy dans la série Lupin, et au cinéma depuis mercredi dernier dans Les Méchants, le drôlatique premier film de Mouloud Achour et Dominique Bommard, que je félicite au passage.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Ludivine Sagné.
Bonjour Eva.
Alors, avant de nous intéresser au monde qui nous entoure, je voudrais me pencher un peu sur l'intérieur. Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Bien entendu.
Ah oui, bien entendu, c'est une évidence.
Oui, puisque la vie est une réjouissance.
C'est vrai ?
Oui, ça vous paraît bizarre ?
Oui, bien sûr.
Non.
Ça a toujours été le cas ?
Je vous dis pas 100% des jours, mais oui, majoritairement, je suis plutôt heureuse d'être en vie.
Et alors la seconde question, pour savoir comment ça se passe à l'intérieur de la créature que j'ai en face de moi, c'est êtes-vous en bon terme avec vous-même ?
Je suis en assez bon terme avec moi-même. Surtout quand je vois comme les autres ne le sont pas forcément.
Vous y avez travaillé ?
J'y ai beaucoup travaillé, bien entendu. Mais je suis, dotée d'un, je sais pas, d'une bonne nature qui chasse assez facilement la mélancolie.
Là, on revient à mes anciennes amours, attention. Ludivine Sagné, dans une interview, vous dites « Savoir qui on est, c'est très compliqué, il est plus simple de savoir qui on n'est pas. Qui n'êtes-vous pas ?»
Je suis pas quelqu'un de triste. Je suis pas quelqu'un de négatif. Je suis pas quelqu'un de passif. Je suis pas quelqu'un d'inconstant. Bon, c'est déjà pas mal, non ?
Ah ouais, c'est vraiment pas mal. C'est déjà une publicité pour vous. Vous avez appris le grec ancien à l'école et vous savez encore dire « je sais que je ne sais rien ».
Oui, oh ça...
Ok, bon, bah ça, non. Alors ça, on le jette.
J'ai travaillé le grec ancien.
D'accord. Non, mais ce qui m'intéressait, c'était « je sais que je ne sais rien ».
Bah, ça, c'est déjà, c'est déjà une bonne étape dans une démarche positive. Je pense que l'humilité, ça permet de chasser beaucoup de pensées. L'humilité, ça permet de chasser un ego sale, par exemple.
Justement, l'ego, c'est autre chose qui frappe quand on lit vos interviews, Ludivine Sagné, c'est que vous dites que ça ne sert à rien de se mettre tout le temps au centre du monde. Quand on a lâché l'ego, on n'est plus en paix avec soi-même. Ça, ça a été un apprentissage ou c'est naturel ?
Ouais. Non, ça m'a coûté quelques séances. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Je pensais que l'ego était synonyme d'une extrême satisfaction de soi. Et en fait, c'est un malentendu que je suis pas la seule à subir. Mais une fois qu'on a compris que c'était pas ça l'ego. Qu'on pouvait être complètement, qu'on pouvait se sentir comme une merde, excusez-moi, parce que justement on avait un ego démesuré. Et en fait, c'est à partir du moment où on prend l'ego comme quelque chose juste qui est pesant et pas qualitatif, qu'on peut ensuite s'en dégager.
Vous avez tourné pour Chabrol et il vous disait « Ce que j'aime chez toi, c'est que t'as du fou ». Est-ce que vous vous interrogez beaucoup, Ludivine Sagnier ?
Est-ce que je m'interroge beaucoup ? Oui, nécessairement. C'est drôle que vous me sortiez ça, je savais pas que...
Je trouvais ça mignon.
Oui, effectivement. Mais c'est marrant parce que, en fait, que vous m'avez dit tout à l'heure ce que je ne suis pas, je me souviens qu'une fois, je lui avais demandé, Chacha, parce qu'il fallait qu'on l'appelle Chacha, dites-moi quels sont les films que vous aimez, les vos films préférés. Il m'avait dit, mais enfin, c'est ridicule comme question. Je dis, ah bon, ok, donc j'écoutais, je dis, pourquoi ? Il me dit, mais parce que je me définirais bien mieux par les films que j'aime pas que par les films que j'aime. Je vais pas te dire que j'aime Hitchcock et Renoir, c'est nul. Maintenant, si je te dis que j'aime pas Tarantino, David Lynch, c'est pas le cas. Hein. Mais en tout cas, il me dit, tu t'en sauras plus sur moi.
Les dégoûts plutôt que les goûts.
Ouais.
Peut-être.
Et il m'a dit que j'avais du chou... Mais moi, en fait, je m'interroge pas plus loin que le bout de mon nez. À partir du moment où je suis heureuse, je cesse de m'interroger. Hein. Je m'interroge juste pour aller mieux. Je suis pas une grande philanthrope non plus. Hein.
Alors quand même, vous faites quelque chose assez joli. On va en parler tout à l'heure. Je vous ai demandé, Ludivine Sagnier, ce qui vous donnait envie de vous lever. Je m'attendais à une réponse vraiment philosophique. Et vous avez eu une réponse exquise. L'odeur du café et du pain grillé.
Ouais, ça me rend dingue.
Mais c'est merveilleux d'avoir une raison de se lever aussi accessible.
Oui, mais moi j'ai toujours misé sur des petits bonheurs, des petits rêves à réaliser. Comme ça j'avais toujours l'impression de réaliser un rêve par jour. Et du coup en fait je suis très facilement satisfaite.
On va se tourner vers l'extérieur et découvrir votre façon de participer au monde dans un instant. Et il sera entre autres question de Sœur Emmanuelle, d'une école de cinéma gratuite, d'Hubert Reeves, de Gina Rolands, d'Ingmar Bergman, d'Instinct, d'Association, de Mayonnaise et du compositeur Baldassare Galuppi. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we. And I suddenly turn and see your fabulous face.
What about me?
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true?
They go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. My idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick.
it's clear to see you obviously do not adore. Some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick.
You give me a whirl.
I get a kick out of you. Get my kicks out of you.
Eva Bester sur France Inter.
Vous venez d'écouter une reprise de Cole Porter par Tony Bennett et Lady Gaga, I Get a Kick Out of You. Nous sommes toujours avec Ludivine Sagnier. Il est temps de s'intéresser à l'extérieur. Vous dites dans une interview que vous êtes capable de vous sentir bien quel que soit votre environnement. Ma question est la suivante. Aimez-vous votre époque? J'ai l'impression qu'on peut prévoir la réponse vu ce qu'on s'est dit en début d'émission.
En fait, je pars du principe que je fais avec. C'est ma philosophie. Je dis pas que j'aime mon époque plutôt qu'une autre. En fait, je me souviens du peu que j'ai retenu de mes cours de philosophie en terminale où j'étais vraiment pas mature parce que j'avais que 16 ans. Mais le peu que j'ai retenu, c'était qu'il disait, le prof disait, l'adaptation, c'est l'intelligence. Ou l'intelligence, c'est l'adaptation. Et donc, je me suis toujours dit qu'il fallait que je développe ma capacité d'adaptation et que, à partir du moment où j'étais bien avec moi-même, je devais être bien partout.
Donc, vous y avez travaillé?
Oui, pas forcément consciemment, mais en tout cas, j'ai toujours, je sais pas, j'ai un instinct très fort qui fait que je me laisse jamais trop, polluer.
Ludivine Sagnier, vous n'êtes pas pour autant insensible à ce qui se passe évidemment autour. Qu'aimeriez-vous changer dans votre environnement ou dans la société?
Ça, y a tellement de choses à changer que je ne saurais pas par où commencer, malheureusement.
Vous nous avez confié avant l'émission consommation, discrimination, éducation. Choisissez une carte au hasard.
Ah là là. Bah, les trois sont équivalentes. La consommation, évidemment qu'il faut aller vite là. Je pense que c'est le plus urgent s'il fallait en choisir un, puisque c'est ce qui peut aussi engendrer les problèmes des autres. Donc le mode de consommation, le mode de vie. Mais moi je suis qu'une pauvre actrice, j'ai pas de solution malheureusement.
Non, mais vous êtes engagée à votre échelle.
Moi je suis engagée dans l'éducation.
Ouais, on va en parler en détail, mais vous venez d'une famille où l'engagement était déjà mis en valeur, mais sans pour autant le crier autour. C'est-à-dire que c'est assez noble de votre part, Ludivine Sagnier, vous ne le criez pas sur la place publique.
Ben si, là, vous voyez, je vous en parle.
Mais là, c'est pas une place publique, c'est un sanctuaire.
<Non. rire> c'est un joli sanctuaire, en tout cas.
Ouais, merci.
Non, je crie pas. Bah, disons que je crie pas grand-chose. Je suis assez peu présente sur les réseaux sociaux. Enfin, professionnellement, mais je suis pas quelqu'un d'exhibitionniste en général. Mais mes parents le sont pas non plus. Oui, l'engagement. Ma mère, elle est engagée dans toute forme de choses depuis des années, que ce soit l'aide aux travailleurs immigrés, l'épicerie du cœur. Elle a fait la chorba pour une famille syrienne pendant tout le confinement. Je sais plus ce qu'elle fait. Enfin, elle arrête pas, ma mère. C'est pas quelque chose qui relève de l'ordre public. C'est pas public, quoi. C'est juste une nécessité.
On va justement détailler ses engagements. Et juste avant, Ludivine Sagnier, rapidement, si vous aviez un pouvoir politique et si vous aviez un pouvoir magique.
Si j'avais un pouvoir magique, je sais pas,
pour changer les choses.
Bah déjà, je glacerais l'épaule pour qu'ils arrêtent de fondre. Ça, ce serait premier coup de baguette. Et après, un pouvoir politique. C'est compliqué. Je sais pas ce que je ferais. Je réformerais l'éducation.
Pas mal.
Là, on a ouvert la candidature, ça fait 3 semaines. La première session d'écriture, il y a 10 places. Nous, on s'attendait à avoir 100, 200 personnes. On s'est retrouvé avec plus de 1000 candidatures. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Donc l'idée, c'est vraiment de les former, de prendre des débutants qui n'ont pas fait d'école de cinéma, parce que les critères de sélection, c'est de ne pas avoir fait d'école de cinéma, ouais, et de ne pas avoir forcément un niveau d'études. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et donc nous, on part du principe qu'en 3 mois, on peut former un débutant à écrire un scénario de court-métrage, et par la suite, le réaliser, le post-produire. Et nous, l'idée, c'est vraiment de les former, et par la suite, les produire aussi, parce que c'est important aujourd'hui.
Le réalisateur Lajli, au micro d'Antoine Decaune et de Charline Roux dans Pop 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 sur France Inter en novembre 2018, au sujet de l'école de cinéma gratuite Courtrage-Mé, du nom du collectif d'artistes fondé en 94, école à Montfermeil, un projet que vous avez immédiatement rejoint, Ludivine Sani, puisque vous dirigez la section acteurs de l'école.
Oui, tout à fait. J'ai commencé l'année dernière, enfin la section acteurs a ouvert l'année dernière. Je suis proche de Lajli depuis longtemps. Et en fait, quand je l'ai vu ouvrir cette école à Montfermeil, j'étais fascinée, impressionnée, et puis je sentais que c'était ça qu'il fallait faire. Et j'arrêtais pas de lui dire, bon bah, quand est-ce que tu ouvres la section acteur, parce que c'est important, tu t'imagines même pas le nombre de gens qui ont besoin de s'exprimer. Et il m'a dit, bah vas-y.
Il y a réalisation et scénario aussi, c'est ça?
Il y a réalisation, scénario, ouais, ouais. Il y avait une section art et image avec l'artiste JR. Mais cette année, il y a plus que scénario, réalisation et donc acteur.
Et vous allez vous leur donner des cours de comédie, j'imagine, et vous avez monté une troupe, Ludivine Sagné.
Oui, alors en fait, bon, j'ai co-conçu avec mon binôme le programme pédagogique, qui est un programme que nous, en tant qu'acteurs, on aurait aimé recevoir. Qui est un programme très très moderne, même si il inclut aussi de la tragédie classique, mais on a fait un enseignement qui est basé sur le corps. Il y a beaucoup, il y a de la danse, il y a de l'acrobatie, il y a du chant, il y a du clown. Donc voilà, ce sont des stages en fait qui se succèdent, et ensuite il y a aussi un travail sur une création personnelle. Chaque élève doit produire une création personnelle, et en fait l'expérience de l'année dernière était plus que concluante, quoi. J'étais émerveillée de voir le spectacle à la fin de l'année et de voir à quel point cette promo est prometteuse. J'en ai sur 17 qui sont sortis. J'en ai déjà qui travaillent, j'en ai plein qui ont trouvé des agents. Il y a une émulation, parce qu'en fait les élèves scénaristes côtoient les élèves réalisateurs et les élèves acteurs. Donc en fait c'est ça aussi notre objectif, c'est que plutôt que de dire on va aller taper à la porte des gens qui ne nous reconnaissent pas, qui ne nous connaissent pas, plutôt que d'aller emprunter un réseau, le réseau on va le créer. Et en fait, c'est l'objectif, c'est la décentralisation du réseau, en fait. Décentralisation de la culture.
Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Ludivine
ouais,
Sagné.
Oui, vraiment.
Il va y avoir un spectacle au 104 en fin d'année ?
Il y a eu un spectacle cette année, ouais, et j'espère bien.
Première sur la source, Bester, toujours.
Bah, il y a eu effectivement
et un spectacle. Et en fin d'année ?
Non, c'était au mois de juin, il y a eu 104 et la Villette.
Il va y avoir un spectacle en juin dernier, Ludivine Sagné ?
Oui, tout à fait. Malheureusement, avec les jauges Covid, on n'a pas pu faire venir beaucoup de monde. J'ai fait venir plus des directeurs de casting qui étaient ravis, parce que effectivement, bon, je sais pas si ça sert de le dire, mais comme cette école est gratuite et que elle s'adresse à des débutants, il n'y a pas de ce que disait Ladj dans l'extrait que vous avez passé. Elle s'adresse beaucoup à des jeunes des quartiers qui sont souvent issus de ce mot horrible qu'on appelle la diversité. Mais du coup, qui sont pas forcément des gens qui sont représentés majoritairement dans les médias, les fictions, etc. Et du coup, il y a une vraie demande. Et nous, on les forme pour qu'ils soient géniaux.
Allez voir l'école de cinéma gratuite Courtrage-Mé. C'est par le cinéma que vous avez également œuvré un autre engagement, Ludivine Sagné, pendant plusieurs années auprès de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, Vous aviez créé là-bas un festival de cinéma où vous obteniez les copies des films que vous diffusiez. Vous avez composé un jury de détenus et de surveillants, ce qui est assez beau.
Ouais,
vous avez demandé à des maquilleuses, des machinistes de venir parler de leur métier. Mmh. Et d'ailleurs, vous rappelez à cette occasion que les métiers du cinéma peuvent faire l'objet d'une réinsertion parce qu'ils ne nécessitent pas de casier vierge. Il y a une anecdote que j'aimerais bien que vous nous racontiez parce qu'elle est très belle. Vous avez fait venir une juge d'enfants lors de la diffusion du film Police de Mai Wen.
Oui.
Et ça a mal commencé, elle s'est faite huer
oui,
au début.
Oui, ça a très mal commencé. Ah, vous êtes au courant de ça. Ça a mal commencé, donc en fait c'était une année où je faisais venir quelqu'un un représentant du film, donc possiblement le réalisateur, et ensuite un invité externe au film, mais qui pouvait ouvrir le débat. Par exemple, on avait fait venir Roche Dizem, je crois, pour Omar m'a tué. Et j'avais invité Jacques Vergès, qui était venu. Ça, c'était quelque chose aussi. Bon, bref. Et là, on arrive avec Mai Wen et la juge pour enfants. Et donc, la juge arrive et là, elle se fait huer par tous les jeunes. Bon, parce que c'est vrai que la maison d'arrêt de Fleury, c'est quand même... c'est une grosse maison de jeunes, quoi. Et ils arrivent et il la hue... Parce que tout d'un coup, le principe du juge, c'est insupportable pour eux. Et elle dit, elle n'est pas du tout dérangée par les huées. Et elle dit, je tiens à dire que 100% des délinquants sont initialement des enfants qui ont subi des sévices. Et 100% des délinquants sont déjà à la base des victimes. Et là, alors là, silence total. C'est ça que vous voulez que je raconte ?
Ouais.
Silence total, avec Mai Wen, on avait la chair de poule, et tout d'un coup, elle a commencé à parler. Et ils se sont tus, et à la fin, ils l'ont applaudi, et à la fin, ils ont donné le prix du meilleur film à Police. Ce qui était quand même pas du tout prévisible, compte tenu de leur statut, etc. Voilà, c'est mes petits changements à moi. C'est pas des changements de fond, mais c'est déjà pas mal.
Si, ça participe activement, réellement au fond. Et d'ailleurs, dans l'éducation, Ludivine Sanier, vous avez d'autres engagements. Vous aidez à financer la scolarité de deux filleuls via deux associations.
Oui. Oui, mais moi, vous savez, je suis un peu comme. Je suis comme le colibri de Pierre Rabhi.
Oui. Mais c'est pas mal déjà, le colibri.
Ouais, je suis un petit colibri bien rempli, quoi. Je sais pas, plus que ça.
Mais on pourrait être des gros ratons laveurs sur des canapés, quand même.
C'est vrai.
Je ne peux pas supporter le mensonge, l'hypocrisie. Et le Christ était comme ça. Je ne peux pas supporter ceux qui se disent bons chrétiens, qui vont donc régulièrement à la messe, qui sont peut-être d'honnêtes gens, et qui ne vivent que pour eux. Je ne peux pas. C'est des privilégiés qui sont dans l'opulence et qui s'en fichent pas mal du reste du monde. Quand j'en vois parfois, je ne sais pas, parfois j'éclate. Je suis pour la justice. Et ça, c'est injuste. On n'a pas le droit, quand on est un homme, de garder tout son argent pour soi et tous ses privilèges. Et comme dit le psaume, il est absent de la peine des hommes. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas le supporter.
L'une des rencontres qui a changé votre rapport au monde, Ludivine Sanier, l'enseignante et religieuse Sœur Emmanuelle sur la chaîne, en 96, vous l'avez rencontrée.
Oui, je l'ai rencontrée parce qu'à l'époque, donc j'habitais dans le 92 à Sèvres. Et donc j'étais à l'aumônerie catholique, parce que c'était bien la seule activité qui était proposée dans cette commune. Et j'étais attirée par l'éveil religieux. Et je pense que cette aumônerie était tenue par des gens très bien. Et ils ont fait venir Sœur Emmanuelle, et donc j'ai un souvenir émerveillé. Elle nous a parlé, j'étais pas seule, hein, on devait être une centaine à l'écouter, mais j'ai le souvenir, bah, comme on l'entend là, c'est-à-dire d'une petite bonne femme tellement tellement forte dans ses convictions, dans son rapport au monde, dans son rapport à l'homme. Et pourtant, en étant chaste, il y a une espèce de connaissance de l'homme qui est surprenante. Et puis, tout d'un coup, je sais pas, elle rendait la religion pratique. Elle donnait du sens à la religion tout le temps, en fait. Elle remettait la religion dans quelque chose de très quotidien. Et elle mettait, voilà, elle refusait la mauvaise foi, quoi, si je peux dire.
Ludivine Sagnier, vous avez eu une sorte d'appel très fort vers la foi vers l'âge de 15 ans, et puis ouais. Ça s'est terminé 3 ans plus tard de façon brutale. Vous étiez aussi triste qu'après une rupture amoureuse, paraît-il.
Oui, c'est vrai.
Et aujourd'hui, vous dites préférer la chimie à la spiritualité.
Oui, ça me parle plus. Mais ça ne veut pas dire que je dénigre celle des autres. Hein. Je suis toujours très respectueuse par les inspirations de chacun. Pour l'instant, c'est ce que je ressens.
Comme notre planète, le Soleil et les étoiles sont sujets à de grandes vibrations qui se propagent dans tout leur volume. Si on pouvait les entendre, d'innombrables ondes sonores étalées sur une vaste gamme de fréquences donneraient l'impression d'émerger d'un orgue gigantesque jouant dans le registre le plus extrême. Fort heureusement pour nous, l'absence d'air entre le Soleil et la Terre ne permet pas à ces sons de rejoindre nos oreilles. Autrement, nous en serions dangereusement assourdis.
Une autre rencontre marquante, c'est l'astrophysicien québécois Hubert Reeves.
Ouais. En fait, ça, c'était un hasard. Je venais de justement avoir cette espèce de déception religieuse. Et j'étais pas loin d'ici, j'étais au Musée de l'Homme. Je sortais d'une expo et puis je vois qu'il y avait un cocktail. Alors, je suis avec un pote et puis je dis, vas-y, reste, il y a des petits fours et tout, on va se boire du champagne gratos. Bon, 18 ans, quoi. Et puis, je suis au cocktail et puis là, je vois un monsieur qui a l'air trop sympa dans ce cocktail et je commence à discuter. Et tout d'un coup, on part dans une discussion sur la religion, la connaissance. Est-ce que la religion tue la foi? Est-ce que, en fait, c'était voilà, la conversation était basée sur en fait les limites de la science et celle de la religion. Où est-ce que ça se croise? Est-ce que c'est antinomique, etc. Et on discute, et puis pendant ce temps-là, il y a un monsieur qui commence à faire un discours. On continue de discuter, puis on entend Hubert. Et là, il fait « Oh, pardon, il faut que j'y aille ». Et en fait, il m'avait pas dit, mais le pot, c'était en son honneur. Et lui, il était parti dans sa... Et c'était pareil, c'était un petit bonhomme, un peu comme Sœur Emmanuel, des gens d'une intelligence incommensurable, mais d'une simplicité vertigineuse, quoi. Et en fait, je sais pas, c'est normal que ces gens-là y marquent, forcément.
La troisième rencontre n'est pas exemple de charisme non plus. Dans votre panthéon humain, il y a la comédienne Gina Roland, Ludivine Sagnier. Vous l'avez rencontrée en 2006 à Cannes à l'occasion d'une conversation organisée par France 2, je crois. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'elle vous a dit de marquant?
Oui, alors je l'ai rencontrée un peu tôt, du coup, parce que j'étais jeune et j'avais pas encore tout compris à 25 ans, évidemment.
Là, vous avez tout compris?
Non. Toujours pas, mais un peu plus. Oui, en fait, c'était France Télévisions qui faisait une émission, une conversation, et j'ai passé une demi-heure avec elle, et je me souviens, je lui avais posé cette question que je regrette pas, mais qui était un peu immature, parce que je lui avais demandé si dans Opening Night, en fait, la détresse, le désespoir de cette actrice, elle l'avait... si elle l'avait composé, si elle avait fait, en gros, si elle avait fait semblant d'être malheureuse, ou si elle était allée chercher dans sa propre expérience, et elle avait mis très gentiment sa main sur mon bras, et elle m'avait dit, t'inquiète pas, le temps se chargera de te donner la réponse. Et j'avais dit, oui, très studieuse, feignant d'avoir compris alors que j'avais rien compris. Et évidemment, le temps passant, j'ai fini par comprendre ce dont elle voulait parler.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. Mais il déteste ça.
60. Elle a 18, 19 ans. Elle est jolie et douce.
C'est Laurent Garnier, Saul, dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Ludivine Sagnier.
Mets la main gauche sur la Bible et répète après moi. Moi, Alexandre Ekdal.
Moi, Alexandre Ekdal.
Je jure de par le livre saint et de par le Dieu vivant.
Je jure de par le livre saint et de par le Dieu vivant.
Que tout ce que j'ai dit, ce que je dis ou ce que je dirai.
Que tout ce que j'ai dit, ce que je dis ou ce que je dirai.
Et la vérité, rien que la vérité.
Et la vérité, rien que la vérité.
Alexandre, mon garçon. Toi et moi, tu t'en souviens, nous avons eu une conversation, une très importante conversation, il y a environ un an, sur le mensonge et la vérité.
Ce n'était pas du tout une conversation.
Que veux-tu dire?
L'évêque parlait et Alexandre se taisait.
Et il se taisait peut-être parce qu'il avait honte de ses mensonges.
Je n'ai plus honte aujourd'hui, j'ai changé.
Veux-tu dire que tu es un meilleur menteur?
Si vous voulez, oui.
Alexandre, mon garçon. Crois-tu que cet état de choses pourrait durer longtemps? Crois-tu que tu pourras longtemps salir, piétiner, souiller l'honneur d'un homme en toute impunité?
Je crois que l'évêque déteste Alexandre. Voilà ce que je crois.
Selon vous, Ludivine Sagnier, pour être armée dans l'existence, tout le monde devrait voir Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, adaptation d'un de ses romans, réalisé en 82. C'est le film que Bergman considérait comme représentant la somme totale de sa vie en tant que réalisateur. Pourquoi ?
Bah parce que c'est la somme totale de pas mal de choses. Sur le regard de deux enfants sur une, sur tellement de choses, sur la famille, sur les classes, sur l'art, sur la religion, sur les contradictions humaines, sur la résistance, sur la résilience. Il y a tellement de notions, en fait, qui sont perçues par ces deux enfants. Je trouve que c'est... En fait, j'ai vu il y a quelques années... J'avais vu le film, mais j'ai vu il y a quelques années la série qui est disponible sur Cinétech. Pour pas vraiment pas cher. Donc c'est je sais plus combien il y a d'épisodes, 5 ou 7 épisodes, et c'est, je sais pas, c'est grandiose, quoi. C'est tellement, c'est plein de sens.
Parce qu'il a réalisé la série aussi?
Oui, il a réalisé la série. En fait, c'était d'abord une série qu'il a ensuite montée en un film de 3 heures. Mais la série, elle fait, je crois, elle fait 5 heures bout à bout. Franchement, je saurais pas. J'ai presque peur d'en parler tellement c'est un monument.
D'accord, ne souillons pas les œuvres d'art.
Voilà, exactement.
Passons aux choses sérieuses.
Des centaines et des centaines de travaux de laboratoire ont été publiés par les physiciens au sujet de la naissance de textures physiques semblables à celles de la mayonnaise. On les appelle des émulsions si l'huile est mise en contact avec du jaune d'œuf. Sa tension superficielle diminue. Au cours de cette diminution, l'huile a tendance à se diviser en de très nombreuses petites particules. Des millions, des milliards de particules microscopiques qui se repoussent les unes les autres. Et pourquoi ? Mais parce que chacune de ces particules microscopiques est chargée d'électricité négative. Or, tout le monde le sait. Deux particules chargées d'électricité de même nom se repoussent. Toutes les particules de la mayonnaise se repoussent donc, et la sauce reste à l'état d'émulsion stable.
Simplement pour le plaisir d'écouter cette archive de 1949 sur la RTF, le professeur Édouard de Pomian, spécialiste de gastrotechnie, donne les principes scientifiques de la mayonnaise, soit l'une des choses que vous ratez parfois, Ludivine Sagnier, contrairement à l'occasion d'être heureuse. Comment ne jamais rater l'occasion d'être heureuse ?
Alors attends, comment ne jamais rater l'occasion d'être heureuse ? Je sais pas.
Mais comment ne pas rater une mayonnaise alors, dans ce cas-là ?
Comment pas rater une mayonnaise ? Il faut que l'œuf soit pas frais. Déjà, il faut pas qu'il sorte du frigo, ça je sais. Et il faut de la constance.
Et c'est ce que vous avez, si j'en crois ce que vous nous avez dit au début de l'émission.
Ouais, mais je suis gauchère et je suis pas la personne la plus habile du monde en termes de fouet. Voilà. Je ne suis pas une grande fouetteuse. Vous
n'êtes pas une grande fouetteuse,
je reconnais. Je reconnais.
Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez répondu « Je n'ai pas d'ambition globale, j'avance instinctivement ».
Ouais, c'est-à-dire que mes accomplissements sont journaliers, en fait. J'ai des petits buts à atteindre.
Je vous ai aussi demandé de trouver quelque chose de beau pour les auditeurs.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Ça. Sonate pour piano numéro 5 en do majeur du compositeur vénitien du XVIIIe siècle Baldassare Galuppi, interprété ici par Arturo Benedetti Michelangeli en 1965. Est-ce que vous vous souvenez, Ludivine Sagnier, de votre rencontre avec cette œuvre ?
Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. C'était un jour où c'était pas un jour où j'étais très positive. C'est un jour où j'étais pétrie de plein de choses négatives que je ressassais. J'avais l'impression de pas m'en sortir parce que oui, là, j'ai beau fanfaronner, il y a bien des jours où c'est pas facile. Et mon amie Julie Depardieu, qui est une grande mélomane, m'a dit, écoute, je sais pas quoi te dire. Écoute ça. Tu verras, ça rendra les choses plus légères. Les choses sont pas si compliquées, finalement, quand on écoute Galoupi. Et voilà, si tu peux avoir une embellie dans ta journée, eh ben, ce sera celle-là. Et en fait, j'ai écouté ça, et maintenant, c'est devenu comme un, comment dire, une chanson douce, quoi, qui m'apaise vraiment. Quand je suis pas bien, c'est comme un doudou. Et ça permet, ça rend toutes les choses. C'est pas une chanson qui est, c'est pas un morceau qui est abrutissant, c'est pas un morceau qui dénie le réel. C'est un morceau qui l'accepte, qui accepte le réel, qui accepte que les choses soient pas si faciles que ça, mais qui allège, qui allège le cœur.
Divine Sanier, vous venez d'une famille de musiciens et petite, vous avez accepté de faire du piano pour faire plaisir à votre père, mais vous n'aimiez pas le solfège. Et vous avez donc, pour échapper aux partitions, imité votre sœur et vous avez fait du théâtre.
Oui, absolument.
C'est comme ça que ça a commencé.
Oui.
Pour fuir en fait quelque chose
de pénible.
Pour
fuir le piano, oui. C'est vrai.
Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvée à 8 ou 9 ans dans le film de Pascal Thomas, Les maris, les femmes, les amants.
Oui, absolument.
Mais c'était pas du tout une vocation évidente en fait, de jouer la comédie.
Non, non. Moi, je vous dis, moi, mes rêves, ils n'étaient pas du tout au long terme.
Et j'ai lu aussi que vous aviez fait des études de lettres et que de 18 à 20 ans, vous avez été organisatrice, on parle toujours de musique, de concerts et attachée de presse pour un collectif musical de reggae et de raga, c'est vrai?
Je peux pas dire de 18 à 20 ans, plein temps, mais c'est vrai que j'avais mon crew. J'avais mon sound system.
Est-ce que vous écrivez toujours des chansons? Et est-ce que vous avez eu des dreadlocks?
Non, j'ai eu des dreadlocks dans un court-métrage à 18 ans. Qu'est-ce que j'étais fière, je voulais les garder toute ma vie. Et sinon... sinon, non, malheureusement, j'écris plus de chansons. J'ai pas beaucoup le temps.
Alors l'embellie, ça parle d'engagement au sens existentiel, dans le sens de participer et d'agir plutôt que de se retirer du monde. À la fin de l'émission, je demande à l'invité de prendre un petit engagement vis-à-vis de lui-même ou de l'extérieur et qu'il tiendra, j'espère, à partir de la sortie de l'émission. Ludivine Sanier, vous avez choisi une promesse à vous-même. Vous avez dit de respecter mon corps en faisant plus d'exercices. Quel est le premier pas que vous allez réaliser dans cette direction?
Un truc tout bête. C'est le gainage au feu rouge.
Dès qu'il y a un feu rouge, la planche quand il y a des feux rouges,
ouais.
Par terre dans la rue.
Non, je suis en voiture et pendant que j'attends.
En conduisant.
Ouais, en conduisant. Pendant que j'attends, dès que le feu passe au rouge, je m'arrête et je gaine jusqu'au feu vert. Et
en étant assise.
Oui, ben ça marche. Hein.
D'accord. Donc comment vous le faites exactement? Vous contractez tous les muscles.
Je gaine comme ça. Voilà, et j'attends
imitez,
que ça passe
mais c'est pas facile à décrire à la radio.
Eh ben, je gaine les
contracter les abdominaux.
Ouais, je contracte toute la ceinture abdominale. Et déjà, si je fais ça tous les feux rouges, si j'ai une heure de trajet, si je traverse Paris, je peux vous dire, je sors, j'ai les tablettes. Hein.
Bon bah bravo, bravo. On arrête sur ça, c'est encourageant.
Ok.
Merci beaucoup d'être venue dans cette émission, Ludivine Sanier.
Merci de m'avoir invitée, Eva. Bonne chance à vous.
Merci. Vous êtes à l'affiche d'une des comédies les plus drôles de la rentrée, Les Méchants de Mouloud Achour et Dominique Baumard en salle depuis mercredi dernier. On peut vous voir jouer la compagne de Lupin dans la série homonyme sur Netflix. On pourra bientôt vous voir dans le film La Ruche de Christophe Hermans. Et en préparation, une série américaine sur Catherine de Médicis dans laquelle vous jouez Diane de Poitiers, sa rivale Serpent Queen. On vous souhaite une bonne rentrée à l'école Courtrajmé qui cherche des mécènes mais qui n'en cherche pas. Chers auditeurs, toutes les références vous attendre sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre semaine aura la grâce d'un acajou camouflé en horizon. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.